Bienvenue pour cette exploration des stratégies patrimoniales. On va commencer par un chiffre assez choc. Saviez-vous que céder son entreprise en France, comme ça, sans préparation, ça peut vouloir dire payer plus de 70% d'impôts?
Oui, c'est un chiffre qui interpelle. Ça laisse à peine 28% du prix de vente aux dirigeants. C'est vraiment peu après des années de travail.
C'est frappant, hein? Et ça ressort bien des documents qu'on a étudiés.
Tout à fait. Et face à ça, il y a un outil qui revient tout le temps dans les analyses, la holding patrimoniale. Elle est vraiment présentée comme la solution pour éviter ce scénario catastrophe.
Exactement. L'objectif, c'est de voir comment cette structure, cette holding, elle permet non seulement de protéger l'argent de la vente, mais aussi de bien le gérer fiscalement et de le faire travailler.
C'est ça. On va regarder son rôle de, disons, bouclier fiscal et puis comment elle sert de plateforme pour réinvestir.
Sans oublier un point essentiel, hein, le timing.
L'anticipation.
L'anticipation, absolument. On va voir les mécanismes, l'importance de s'y prendre à l'avance et puis où réinvestir, même à l'étranger, toujours en se basant sur nos sources.
Alors, ce bouclier fiscal, concrètement, comment ça marche? Comment la holding protège cet argent?
Ben, il y a plusieurs leviers. Le plus connu, c'est le régime mère-fille. Si la holding reçoit des dividendes de la société vendue ou d'autres participations, ils sont presque pas taxés au niveau de la holding.
D'accord, presque pas taxés. Oui, une quasi-exonération. Ensuite, si la holding revend des titres qu'elle détient depuis plus de 2 ans, la plus-value est aussi largement exonérée. Bon, il reste une petite partie taxable, ce qu'on appelle la quote-part de frais et charges, mais c'est minime par rapport à l'impôt sur le revenu.
Ah oui, et il y a autre chose?
Oui, si la holding emprunte de l'argent pour investir, les intérêts de cet emprunt sont déductibles. Ça réduit encore l'impôt à payer par la holding.
Et tout ça mis bout à bout, l'effet est...
spectaculaire, apparemment. On passerait de plus 70% d'impôt potentiel à, quoi, environ 20% au niveau de la holding.
C'est ça, l'ordre de grandeur. Et du coup, ça change tout pour la suite. Les documents montrent que ça peut multiplier la capacité de réinvestissement par 2,5 ou même 3.
Ah oui, quand même. Forcément, moins d'impôts tout de suite, ça veut dire plus d'argent disponible pour construire autre chose. Ça donne une force de frappe financière bien plus importante.
Ce qui nous amène naturellement à son deuxième rôle.
Exactement.
La plateforme d'investissement.
Exactement. Une fois que l'argent de la vente est dans la holding, et idéalement avec une fiscalité allégée comme on vient de le voir, eh bien cet argent est centralisé. Il est prêt à être redéployé.
C'est plus simple pour réinvestir, donc.
Beaucoup plus simple et de manière structurée. Les options sont larges, l'immobilier, que ce soit en France ou ailleurs.
Oui, j'ai vu des exemples États-Unis, Suisse, Maurice, même la Bulgarie.
C'est ça. Mais aussi le private equity, c'est-à-dire investir dans d'autres entreprises non cotées, ou alors les marchés financiers classiques. La holding offre un cadre pour diversifier.
Et un point intéressant aussi, c'est l'accès au crédit bancaire, non?
Tout à fait. C'est souvent plus facile pour une holding qui présente un bilan solide d'obtenir des financements. Et parfois avec un apport moins important qu'on demanderait à un particulier. On parle de 20-30% d'apport pour la holding contre peut-être 40-50% pour une personne seule.
Bon, tous ces avantages sont très intéressants, mais il y a un mais, une condition essentielle.
Ah oui, et elle est martelée dans les documents, l'anticipation. Il ne suffit pas de créer une holding, il faut le faire bien avant la cession.
Combien de temps avant?
Idéalement, 6 à 12 mois minimum. Le moment clé, techniquement, c'est l'apport des titres de l'entreprise qu'on veut vendre à la holding.
C'est cette étape, l'apport des titres, qui déclenche un régime fiscal favorable.
Le fameux article 150-0B TER. Précisément, c'est cet article qui permet de mettre l'impôt sur la plus-value en report. En gros, on ne paye pas l'impôt au moment de l'apport.
D'accord. Et on ne le paie pas non plus quand la holding vend les titres ensuite.
Pas immédiatement, non. Mais attention, ce report n'est pas définitif automatiquement. Pour qu'il le devienne, ou du moins qu'il soit purgé sous certaines conditions, il y a des règles. Il faut que l'apport soit fait avant que la vente soit quasiment signée, juridiquement certaine.
Il y a des garde-fous, j'imagine.
Oui, des clauses anti-abus. Après que la holding ait vendu les titres, pour conserver le bénéfice du report, il faut soit que l'apporteur conserve les titres de sa holding pendant au moins 3 ans, soit que la holding réinvestisse une partie importante du produit de la vente, au moins 60%, dans des activités économiques éligibles, et ce, dans les 2 ans qui suivent la vente.
D'accord. 60% en 2 ans. C'est une contrainte importante.
C'est une contrainte, mais c'est aussi ce qui justifie le régime fiscal avantageux. L'argent doit être réinvesti dans l'économie.
Ok, l'argent est dans la holding, on a respecté les délais. Comment on gère ça au quotidien? Et quels sont les pièges?
Alors, pour la gestion, l'accent est mis sur la diversification. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier, y compris géographiquement. Ensuite, pour sortir de l'argent pour soi à titre personnel, il y a plusieurs moyens.
Lesquels ?
On peut se verser des dividendes depuis la holding. Là, c'est soumis à la flat tax, le PFU, à 30%. Ou on peut choisir le barème de l'impôt sur le revenu si c'est plus intéressant. On peut aussi rembourser un compte courant d'associé si on avait prêté de l'argent à la holding au départ. Ça, ce n'est pas fiscalisé.
Et le salaire ?
Oui, on peut aussi se verser un salaire si on a un vrai rôle de dirigeant dans la holding avec des fonctions réelles. Une astuce mentionnée est de combiner les dividendes et le remboursement du compte courant pour pouvoir prélever environ 4% net par an du capital de manière fiscalement optimisée.
Intéressant, mais il y a des risques quand même, hein ?
Le risque principal, c'est celui de la substance économique. Il faut que la holding soit une vraie structure, pas juste une coquille vide pour échapper à l'impôt.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire qu'elle doit avoir une activité réelle de gestion de ses participations, prendre des décisions, les documenter avec des procès-verbaux. Avoir des locaux, même petits, ça aide aussi. Si l'administration fiscale considère que c'est juste une boîte aux lettres...
Elle peut remettre en cause tout le montage.
Exactement. D'où l'importance d'une gestion rigoureuse, bien documentée et d'un suivi régulier. Un audit annuel est même conseillé dans certains cas.
Et on revient sur l'international. C'est vraiment un axe fort, on dirait.
Oui, la holding est vue comme un bon outil pour cette diversification géographique. Les exemples donnés sont variés. Hein. Des pays comme la Bulgarie pour sa fiscalité jugée attractive, une flat tax à 10% sur les sociétés, exonération des plus-values immobilières après 3 ans.
Ou les États-Unis pour l'immobilier locatif, c'est ça ?
Oui, pour la demande locative dynamique. Ça montre que la holding permet d'aller chercher du rendement et de la diversification au-delà des frontières française de manière structurée.
Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, l'idée maîtresse, c'est que cette holding patrimoniale, si elle est bien pensée et bien gérée,
elle transforme un événement unique, la vente de l'entreprise, en un outil puissant pour construire et gérer un patrimoine sur le long terme.
Et surtout, elle permet de garder une part beaucoup plus importante de l'argent de la vente. On parlait de 70 à 85% qui resterait disponible pour l'avenir, contre moins de 30% sans holding.
C'est exactement ça. Mais, on l'a vu, ça ne se fait pas tout seul. Les clés du succès, qui ressortent vraiment, c'est 1. Anticiper la mise en place bien avant la cession.
2.
Diversifier les réinvestissements intelligemment, y compris à l'international.
Et 3.
Assurer un pilotage sérieux, professionnel, pour que la holding ait une vraie justification économique et ne puisse pas être remise en cause. Rigueur et documentation.
Ce qui amène peut-être une dernière réflexion. Si l'anticipation est si cruciale pour la cession, à quel moment un dirigeant devrait-il commencer à penser à structurer son patrimoine de cette manière ? Peut-être bien avant même qu'une vente soit concrètement sur la table ?
C'est une excellente question, probablement oui. Préparer l'avenir, ça commence souvent plus tôt qu'on ne le pense.